Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Jeudi 23 avril 2026, il est 6h avant minuit, vous écoutez l'émission d'information locale de Syllab. Des mains d'hommes, de femmes et d'enfants s'entremêlant, tirant un sweatshirt, agrippant une épaule et au milieu, le visage en pleurs de Kocha. Kocha qui tente de retenir son mari Louis, migrant équatorien arrêté par l'ICE, la police de l'immigration américaine. Leurs deux filles, elles aussi en larmes, tirent désespérément le pull de leur père. La scène, figeant la séparation bouleversante d'une famille, a été capturée le 26 août 2025 par la photographe américaine Carol Goody de l'agence de presse Zuma. Pour son cliché publié dans le journal Miami Herald, elle a aujourd'hui remporté le concours du World Wide Press Photo. Pour la lauréate, ce prix souligne l'importance cruciale de cette histoire à l'échelle mondiale. Nous sommes témoins de la souffrance d'innombrables familles, mais aussi de leur dignité et de leur résilience face à l'adversité. Tout de suite, le flash de Léonore.
Le plus haut responsable de la marine des États-Unis quitte ses fonctions avec effet immédiat. On a appris cette nuit sans plus d'explication la démission de John Phelan, alors que les États-Unis sont toujours engagés dans un conflit avec l'Iran. Une décision soudaine intervenant après sa prise de parole mardi à Washington, à l'occasion d'une conférence annuelle de la marine. Sa démission s'ajoute à celle de nombreux hauts responsables depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. Sean Parnell, le porte-parole du Pentagone, a annoncé sur X que Hung Cao assurera l'intérim, il était jusqu'ici sous secrétaire. On rembobine. Le 17 avril dernier, l'administration Trump a renvoyé 15 migrants et migrantes vers la République démocratique du Congo. Originaires de pays sud-américains, ils et elles ont été détenus au centre migratoire d'Alexandria en Virginie avant qu'ils soient expulsés par l'ICE. L'accord migratoire entre Washington et Kinshasa est officiel depuis le 5 avril. S'il reste opaque, le gouvernement congolais a insisté sur le caractère temporaire du séjour de ces migrants et migrantes. Un objectif clair pour l'administration Trump, accélérer les expulsions des personnes en situation irrégulière en les renvoyant vers des pays partenaires. Limiter l'addiction, le cyberharcèlement, les contenus inappropriés ou encore le manque de sommeil, la Turquie a franchi un cap. Hier soir, son parlement a adopté une loi qui interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, selon l'agence officielle Anadolu. Et elle n'est pas la seule à s'engager dans cette voie. Roman, que prévoit cette loi exactement ?
Avec cette nouvelle loi, il ne sera plus possible pour les moins de 15 ans de créer un compte TikTok, Instagram ou Snapchat. Les plateformes devront désormais vérifier l'âge des utilisateurs et utilisatrices et les parents, eux, disposeront de nouveaux outils pour encadrer les usages numériques, contrôler le temps passé en ligne et les dépenses. Et selon la chaîne d'information turque NTV, en cas d'urgence, c'est-à-dire de contenu préjudiciable, les réseaux sociaux devront intervenir dans l'heure suivant sa publication et cette loi entrera en vigueur dans 6 mois une fois publiée au journal officiel.
Et la Turquie n'est pas un cas isolé, partout dans le monde, les gouvernements s'attaquent à l'accès des mineurs aux réseaux sociaux.
Oui, l'Australie et la Malaisie ont ouvert la voie en décembre dernier en interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Le Portugal et l'Indonésie ont suivi en février et en mars avec une limite fixée à 16 ans. En France, une proscription des plateformes aux moins de 15 ans a été votée le 31 mars, tout comme en Grèce le mercredi 8 avril dernier. Du côté du Royaume-Uni, c'est une autre histoire. Le 10 mars, les députés de la Chambre des communes ont largement rejeté l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans, avec 307 voix contre et 173 pour. Le gouvernement travailliste préfère d'abord consulter des associations, des experts et des expertes, et des citoyens et citoyennes avant de légiférer. Une interdiction reste toutefois possible à l'issue de ce processus. Dans l'Union européenne, le mouvement s'accélère. La semaine dernière, Ursula von der Leyen et les dirigeants et dirigeantes de plusieurs pays de l'Union européenne ont débattu sur les restrictions de ces usages et leurs effets nocifs. 12 pays étaient présents, soit le double des volontaires de l'automne dernier.
Parce que les 11-14 ans passent plus de temps sur les réseaux sociaux ?
Selon des données de Médiamétrie publiées le 12 février dernier, les adolescents et adolescentes âgés de 11 à 14 ans passent presque 2 heures par jour sur les réseaux sociaux et messageries instantanées. Les plus utilisés, Snapchat 52% y vont, WhatsApp 40%, Instagram 32%, TikTok 30% et Facebook 16%. Plus largement, le temps moyen passé chaque jour par l'ensemble des Français et des Françaises a passé la barre des 3 heures et il se monte à 4h53 chez les 15-24 ans, génération la plus connectée.
La semaine dernière, Emmanuel Macron a appelé à instaurer une journée sans connexion mensuelle pour les jeunes afin qu'ils et elles retrouvent la lecture ou le sport. Je cite « la vitalité de la vie réelle ». Merci Roman pour ce papier. Les drapeaux français flottent aujourd'hui à Montauban. La nation rend hommage au sergent-chef Florian Montorio, 40 ans, tué le week-end dernier dans une embuscade dans le sud du Liban. Le casque bleu appartenait au 17e régiment du génie parachutiste de Montauban. La ministre des Armées Catherine Vautrin et le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Pierre Schild, ont présidé la cérémonie. Hier, Emmanuel Macron annonçait le décès dans cette même offensive d'un deuxième soldat. 3 militaires français ont péri depuis le début de la guerre d'Israël et des États-Unis contre l'Iran. Pour le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, s'en prendre à des castes bleues identifiables est constitutif d'un crime de guerre. Vous serez peut-être touché dès le 1er septembre, les aides à la rénovation énergétique MaPrimeRénov ne concernent plus les rénovations globales gardant un chauffage au gaz après les travaux. C'est une des mesures que vient de dévoiler le gouvernement français dans son plan d'électrification de l'économie. Ce plan concerne à la fois les transports et l'industrie et vise à réduire la dépendance aux énergies fossiles. Près de 4,5 milliards d'euros par an seront consacrés à l'électrification d'ici 2030. Ce budget s'ajoute aux presque 5,5 milliards d'euros annuels déjà existants, précise le gouvernement. À Cesson-Sévigné, une demande de permis modificatif est en cours d'instruction pour un futur complexe de paddle. Les riverains et riveraines craignent de possibles nuisances sonores causées par ce projet annoncé par la mairie en septembre 2025. Situé à seulement 110 mètres des habitations, ils et elles ont d'ailleurs porté le projet devant la justice le 31 mars dernier. Le juge des référés a tranché le 8 avril. Ce projet, je cite, n'affectera pas directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens. Le hangar semi-ouvert de 2304 m² contenant les 6 terrains de paddle devrait donc être fini d'ici 2026. Au son des oiseaux et des voitures, mardi 7 avril, 3 étudiants de Rennes 2 en Master 1 Environnement, Territoire et Acteurs se sont rendus à Cultiver en Ville. Une journée consacrée à l'agriculture en ville pour comprendre l'objectif d'une ferme urbaine. L'événement était organisé par l'association L'École Vert et co-organisé avec les élèves du Master 1 d'ACTS sur le site du Pré à Rennes.
J'avoue que moi je viens de la campagne et l'agriculture urbaine avant d'arriver en ville, à part dans le cadre de mes études, j'avais vraiment pas vu en fait...
Ouais, un peu pareil, je savais pas trop ce que ça pouvait être et au final je me rends compte que c'est pas bien différent de ce qui se passe à la campagne, à part qu'il y a une autoroute à 3 mètres et qu'on est à 10 minutes du métro, mais sinon ça change pas grand chose. C'est évident qu'on va pas réussir à nourrir la ville de Rennes entière en cultivant que à l'intérieur de la ville de Rennes. On a besoin aussi des campagnes, mais c'est que du positif.
Hélène Brett, directrice et coordinatrice de l'association d'École Vert Rennes, précise que parler de ferme urbaine ne veut pas forcément dire production ou animaux. Elle nous raconte l'évolution de son association et des différents sites.
Je pense qu'il y a plein de gens qui participent aujourd'hui, qui sont là parce qu'ils ont reçu l'info dans le cadre de leurs études et qu'ils n'avaient pas forcément identifié l'agriculture urbaine comme un sujet de société en particulier et pas un truc de bobo blanc qui mange du quinoa. La première chose, c'est vraiment ça, c'est de la découverte. Et ensuite, de susciter peut-être des envies d'aller plus loin. Ça, c'est un des enjeux aussi, que ce soit à travers du bénévolat, mais que ce soit aussi peut-être à travers des stages professionnalisants, de s'orienter vers ce domaine-là. Nous, on accueille beaucoup de jeunes dans la structure chaque année, à peu près une vingtaine, entre des volontaires en service civique et des stagiaires, pour leur faire découvrir vraiment les métiers et l'aspect transversal de l'agriculture urbaine. Donc je dirais que c'est pas ça qui va répondre à la précarité économique des associations. Par contre, ça permet de poursuivre le plaidoyer qu'on a entamé depuis plusieurs années, et notamment que la FOP, qui est l'association de l'agriculture urbaine professionnelle, a démarré.
Au terrain du Pré, presque 400 personnes étaient de passage en 2025 pour des visites, des chantiers ou des ateliers.
C'était un reportage d'Anaë Guyon. En handball, Cesson-Rennes s'apprête à accueillir le PSG pour la 25e journée de la Star League. À la 10e place du championnat, les Irréductibles parviendront-ils à tenir tête aux leaders? Pour le savoir, rendez-vous vendredi à 20h30 à la Glace Arena. Évidemment, le Cessonnais, Xavier Labigang, 5e meilleur buteur de cette Star League, sera présent pour un match qui s'annonce de haut vol.
C'était le flash de Léonore, merci à toi.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu Estelle dans 6h avant minuit. Et c'est elle qui s'occupe de l'interview ce soir.
Ce week-end, à Rennes, le MAI François Mitterrand accueille le Village des Possibles pour son édition 2026. Un événement organisé par Alternativa Rennes dans le cadre de la Fête des Possibles. Pendant 2 jours, des conférences, ateliers, spectacles et concerts vont rythmer le week-end. C'est quoi exactement? Qui est derrière? Et qu'est-ce qu'on y fait? Pour répondre à toutes ces questions, on retrouve Mathieu et Lucie, deux membres d'Alternativa Rennes impliqués dans l'organisation de l'édition 2026. Bonsoir.
Bonsoir.
Salut.
Alors, on va faire une petite mise en scène, on va imaginer quelque chose, on va imaginer qu'on est samedi. Il fait beau comme aujourd'hui, il y a moins de vent, on espère, et je me balade sur le mail de François Mitterrand et je tombe par hasard sur le village des possibles. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends?
Alors,
ça va dépendre de l'heure à laquelle tu arrives, mais c'est une journée qui va commencer... je crois en musique, vers 13h30, il y aura un groupe qui va ouvrir le village sur la petite scène. Ensuite, toute l'après-midi, on aura des conférences, des animations qui se tiendront sur les différents espaces. Il y a en tout 3 scènes. Et tout du long de l'après-midi, il y aura aussi un village associatif où il y aura 50 d'associations rennaises qui tiendront des stands. Et c'est le moment pour échanger avec elles, rencontrer ces personnes, connaître leurs actions et pourquoi pas s'engager. Et à partir de la soirée, on va partir plus sur un moment festif avec tout un tas de concerts. On va parcourir différents styles. Peut-être que Mathieu veut en parler un petit peu.
Oui. effectivement, on va commencer les concerts dans les alentours de 18h le samedi soir et finir vers les 23h30. On a quelques têtes d'affiche comme Margaret Thatcheuse. On a 2 grands DJ de la scène rennaise. La plupart des artistes qui viendront jouer d'ailleurs sont des artistes rennais, absolument tous, qui viennent nous aider gratuitement et nous les remercions chaleureusement s'ils nous écoutent actuellement. Donc nous avons des concerts aussi bien le samedi soir que le dimanche. Donc ça va être pendant la journée de 13h jusqu'à 18h aussi, avec des conférences aussi le dimanche. Donc il y a toujours autant d'associations qui seront présentes.
Et donc c'est Alternativa Rennes qui organise cet événement. Enfin, c'est quoi Alternativa Rennes?
Alternativa, c'est un mouvement citoyen qui existe depuis 2013. Ça remonte depuis la COP21, c'est une idée qui nous est venue du Pays Basque, où à la base on a créé le village des alternatives, qui représente exactement la même chose que la fête des alternatives ou le village des possibles que l'on organise sur le François Mitterrand. Cette idée est venue du fait qu'on sait que la transition écologique, sociale et solidaire existe, mais qu'elle n'était pas mise assez en avant. Et la solution de créer des festivals pour ce genre de thématique nous paraissait essentielle en fait dans la lutte contre le changement climatique et le modèle de société actuel.
Et qu'est-ce qui vous a amené à organiser ce type d'événement comme le Village des Possibles?
Alors, le groupe local de Rennes fait partie du mouvement Alternativa. On a tout au long de l'année différentes campagnes qu'on mène avec le groupe local. Et le village des possibles, ça va être quelque chose que les groupes locaux sur lesquels ils peuvent s'emparer localement. Et nous, un de nos objectifs, une de nos actions Alternativa, ça va être la promotion des alternatives écologiques et sociales. Et quoi de mieux pour cela qu'inviter les associations qui œuvrent pour la mise en place de ces différentes alternatives, que ce soit, donc, comme je le disais, sur des thématiques sociales ou écologiques. Ça peut toucher à l'habitat, l'alimentation, la politique aussi, plein de choses.
Et donc, si j'ai bien compris, le Village des Possibles est organisé dans le cadre de la Fête des Possibles, qui est un événement national. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas, comment vous définiriez, je n'arrive pas, la Fête des Possibles?
Comme un grand marché des associations, comme une sorte de grand salon des associations, où on met en avant ces personnalités, ces groupes, pour certains qui sont parfois juste des collectifs citoyens, afin que la population elle-même en entende parler et puisse intégrer ces groupes-là et supporter les projets financièrement d'un point de vue bénévole ou technique. Donc c'est en faisant en sorte que les gens se connectent entre eux, en créant des ponts, que les alternatives futures arriveront.
Et donc la dernière édition du Village des Possibles, ouais, elle remonte à 2023. Donc pourquoi ce retour maintenant ?
Alors, pour être tout à fait honnête, si on n'a pas fait de Village des Possibles ces dernières années, c'est aussi qu'on manquait de force pour le faire au sein d'Alternativa Rennes. C'est aussi un appel à rejoindre les associations parce qu'on a besoin de personnes pour organiser ces événements. Là, sur le village, on est 100% bénévole, alors que c'est quand même un gros événement qui attire autour de 4000 personnes. Voilà, donc ça repose quand même, ça fait reposer beaucoup de responsabilités et on a besoin de pas mal d'épaules pour ça. Voilà.
Et qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle édition ?
Du monde, déjà.
Du soleil.
Du monde, du soleil, pas de vent. Mais surtout, qu'est-ce qu'on attend ? C'est qu'on attend que les associations soient vraiment ravies d'être là et puis trouver des solutions aussi d'avenir. Et que l'on passe tous un moment festif, tous ensemble aussi, pour la lutte pour le climat.
Et donc, on va... pardon, tu voulais rajouter quelque chose ?
Cette année, on voulait aussi donner quand même une dimension un peu plus militante et politique au village. Donc, on l'a structuré sur quatre parcours thématiques qui vont avoir lieu tout week-end, qui sont alors les dynamiques associatives, les alternatives face au système, la politique locale et lutter contre l'extrême droite. Donc en fait, les différentes conférences et ateliers qui vont avoir lieu ce week-end et aussi les associations qui sont invitées sont directement en lien avec ces quatre parcours.
Bah, c'est super, tu m'aides totalement à faire la transition donc, pour rentrer dans la programmation de ce week-end. Donc comme tu l'as très bien dit, le premier parcours, ce sont les dynamiques associatives. Donc comment cette notion va se traduire le temps du week-end ?
Déjà par le village associatif qui sera présent tout le week-end, où comme j'ai dit, on peut rencontrer des membres des associations, donc c'est un peu le plus important du village. Mais il y aura aussi des temps forts, notamment ce qu'on appelle une bourse au projet. C'est un moment où des associations vont pouvoir venir et pitcher des projets où ils ont besoin de bénévoles. Comme ça, ça aide aussi, ça peut faciliter à des personnes qui ne sont pas encore engagées dans des assos ou qui cherchent de nouveaux projets, de connaître des projets, d'y aller directement. Ça sera en plus alterné avec des sessions d'impro de la troupe d'impro Les Bises, donc ça va être super. Et il y aura aussi une table ronde sur les libertés associatives. On n'est pas sans savoir qu'elles sont assez menacées de nos jours, notamment dans un cadre de coupes budgétaires et de restrictions des libertés en général.
Et donc le deuxième parcours, il porte sur les alternatives face au système. Et donc quelles idées vont ressortir lors des rendez-vous qu'il y aura autour de cette thématique ?
Alors là, ce qu'on a voulu vraiment faire ressortir, c'est comment on passe d'une petite alternative individuelle à vraiment politiser cette alternative pour qu'elle prenne un plus grand, pour qu'elle devienne peut-être la norme. Et on se demande aussi pourquoi certaines initiatives, qu'elles soient écologiques, sociales, etc., peuvent être parfois perverties une fois qu'elles sont elles naissent. Enfin, je pense par exemple à des solutions collaboratives comme BlaBlaCar ou Airbnb, qui à la base avaient pour but de créer du lien, de proposer des solutions alternatives à ce qu'on avait et qui sont bien souvent récupérées par le capitalisme et ensuite vont ensuite parfaitement s'intégrer au système qu'on essaye de combattre. Donc voilà, notamment sous ces aspects-là.
Et il y aura aussi une autre conférence sur la lutte contre les GAFAM et sur s'organiser hors des banques, donc avec d'autres alternatives. Le troisième parcours, il s'oriente autour de la politique locale, c'est fantastique. Donc pourquoi avoir voulu remettre la politique locale au centre ce week-end-là ?
On a l'impression que c'est quand même quelque chose qui est peut-être délaissé du grand public. Et au-delà du fait qu'il y ait de plus en plus d'abstention, etc., on voulait montrer qu'il y a d'autres manières de s'engager que la politique traditionnelle qu'on connaît, qu'on ne veut pas forcément laisser la politique aux mains de professionnels, etc., et mettre en lumière d'autres formes de faire de la politique, que ce soit, il y aura notamment un moment sur les listes citoyennes, ou dans l'engagement via des associations ou l'auto-organisation ou d'autres choses comme ça.
Et est-ce qu'il y a un lien avec les élections municipales qui ont eu lieu en début d'année et les élections présidentielles qui seront à venir ?
Oui, il y aura notamment un moment aussi, enfin une conférence pour présenter le pacte pour la transition, qui est une campagne qu'on a menée avec Alternative à Rennes aussi, dans le cadre des municipales. En fait, ça consistait à faire signer une liste d'engagements à des listes, des engagements pour la transition écologique et sociale, par exemple la gratuité de transport en commun, l'encadrement des loyers, plus de bio dans les cantines, etc. Donc c'est des engagements qu'on veut ensuite suivre, enfin sur lesquels se sont donc engagés les listes et notamment la liste gagnante, et on va maintenant faire un suivi des promesses qui ont été faites.
Et enfin, le dernier parcours est autour de la lutte contre l'extrême droite. Donc comment vous abordez ce sujet-là ?
Il y aura encore un certain nombre, il y a deux conférences et un atelier sur ce thème. Un qui consiste à faire un tour d'horizon des résistances en Bretagne. Donc, quels sont les collectifs et les formes d'organisation qui luttent contre la propagation de l'extrême droite en Bretagne. Et il y a aussi une autre table ronde où on invite Bolchevik, alias Benjamin, enfin c'est le nom de Benjamin Patineau que vous connaissez peut-être, qui est un vidéaste et auteur de science-fiction, pour discuter aussi de comment, par exemple, comment mener la bataille culturelle et comment la science-fiction peut être un outil, un moteur pour créer de nouveaux imaginaires.
Donc l'idée de cette conférence-là, c'est un peu de dénoncer l'extrême droite ou aussi de proposer d'autres récits.
Dans ce cadre, un peu les deux, mais dans ce cadre-là, on est vraiment aussi dans les nouveaux récits, ouais, complètement.
Et donc au-delà des conférences, comme tu as très bien dit tout à l'heure Mathieu, il y a aussi des spectacles, des ateliers et des concerts. Donc c'est important pour vous de mêler engagement et moments festifs autour de ce festival, enfin de ce village, pardon.
Oui, totalement. Ça... D'ailleurs, les artistes nous soutiennent justement parce que notre projet les intéresse grandement et nous leur donne envie de jouer gratuitement pour nous. C'est génial. Donc, quand on a des remerciements, et puis même quand dans la ville, c'est même attendu parce qu'on a eu des personnes qui ont été faire de la distribution de papier, de tracts, et où les gens venaient carrément nous voir, alors que d'habitude, c'est nous qui allons vers les gens pour distribuer les tracts. On est reconnus et du coup, pour moi, c'est essentiel que lors d'un événement comme ça, on puisse se réunir et aussi fêter un petit peu, se défouler, parce que déjà toute l'année, c'est difficile de vivre dans les associations, de faire vivre tout ça, c'est très difficile. Alors si on peut de temps en temps se lâcher autour d'un pas de danse, autour d'un coup de violon, je ne sais pas, ou du punk rock, autant y aller. Donc voilà, c'est ce que je souhaite apporter aussi à cet événement.
Et donc pour finir, est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs et auditrices qui ont envie de lâcher prise, où est-ce qu'ils peuvent retrouver toutes les informations ? Donc ça a lieu de quelle heure à quelle heure ? Et est-ce que c'est gratuit ou pas ? Faut-il s'inscrire ?
C'est entièrement gratuit. C'est entièrement gratuit, mais on demande aux gens s'ils peuvent nous faire une participation. Il y aura plein de boîtes à dons à travers tout le festival. On compte sur vous. Si vous avez un petit peu d'argent, ça va aider à la lutte, généralement, aussi bien pour nous, Alternativa, que pour les associations en général. Le festival va se dérouler de samedi de 13h à 23h30 et le dimanche de 13h à 18h exactement.
Et où est-ce qu'on peut retrouver toute votre programmation plutôt détaillée ?
Via les réseaux sociaux, via Facebook, Instagram.
Y a aussi le site internet Faites des possibles, mais on a fait beaucoup de contenu effectivement sur les réseaux. Et aussi, je voulais compléter, on n'en a pas parlé, mais il y aura aussi de la restauration et une buvette sur place qui nous aide à financer le village. Et il fera très chaud ce week-end.
Bah, merci beaucoup, en tout cas, Lucie et Mathieu d'Alternativa pour être venus ce soir.
Merci, merci à beaucoup.
6 heures avant minuit.
Pas de chronique ce soir, mais je vous propose qu'on écoute le répondeur.
Téléphone.
Allô, allô.
Syllab, la radio sauvage.
Coucou à toute l'équipe de 6h ou 8h. Et ben là, je suis en train de faire du sport, j'ai en train de faire du vélo sur Dol de Bretagne. Alors je vais laisser un petit message, parce que ça fait longtemps que j'ai pas laissé un message sur le répondeur. Que demain soir à la Nouvelle Vague à Saint-Malo, il y a l'artiste René Lupicica qui chauffera la salle de la Nouvelle Vague dès 20h30. Il sera accompagné de Samy Brasco, donc un autre artiste qui a été repéré par Lupicica, donc deux artistes en commun. Donc moi j'ai des souvenirs de Lupicica avec son collectif Colombagne en Transmusica de Rennes en 2017, où c'était dans le hall 8 et c'était vraiment un truc incroyable. Et puis j'ai suivi un peu de ses projets et tout. Donc là récemment il a sorti un nouvel album. Donc voilà, je sais pas s'il est dans la playlist de Syllab. Voilà, bon. Voilà, si vous voulez voir demain soir à la Nouvelle Vague, c'est tarif 25€ la place. Allez, gros bisous à vous, je vous embrasserai très fort et puis il n'y a plus qu'à repédaler pour faire le retour. Allez, gros bisous à vous.
Merci cher Benoît, on espère que tu as fait une bonne balade à vélo, que tu n'as pas eu trop de vent, hein, parce qu'il y avait du zèf quand même aujourd'hui, alors je ne sais pas du côté de Saint-Malo comment c'était, mais on espère que tu as fait une bonne balade à vélo et que tu as réussi à rentrer chez toi. Faites comme Benoît, laissez-nous un message vocal 02 30 96 25 35, on vous écoute, on diffuse ça à la fin de l'émission. Et puis avant qu'on se quitte, je voulais juste faire un appel si tu es une femme ou une minorisée de genre, et si tu souhaites t'initier au mix, il reste des places pour le dernier atelier BBDJ organisé par Syllab. C'est gratuit, ça se passe dans notre studio à Villejean et c'est mercredi 29 mai prochain. Aux manettes de cette formation, la DJ Pulco Turbo. Pour t'inscrire, tu peux nous écrire à équipe@c-lab.fr. Merci Timothée pour la technique. À lundi dans 6 heures avant minuit.
Exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h. 18h, 19h, sur Syllab, la radio sauvage.